Voilà, on est en direct du lycée horticole. On continue et là, on va s'intéresser un peu plus précisément au projet qu'on a mené avec donc l'enseignante de français du lycée, qui est le partenaire direct entre Studio ZEF et le lycée horticole. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et on a aussi au micro Benjamin Carotret.
Bonjour. Bonjour,
ça va ? Ouais, ça va. Donc du coup, toi, tu es intervenant sur le projet avec la classe aussi ?
Absolument.
Voilà. Et ben, on va pouvoir un petit peu en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et puis, du coup, on a Arnaud aussi qui va nous présenter un petit peu le texte qu'on va entendre après, puisqu'on a enregistré tout ça et on diffuse juste après. Alors, du coup, dis-nous, toi, un petit peu, quelle était l'ambition de faire venir la radio dans la classe pour travailler sur la littérature ?
Pour travailler sur la littérature, travailler sur des émissions qu'on a entendues jusqu'à présent, là, durant l'après-midi, et puis ça va continuer. Et par rapport à la littérature, c'était surtout de permettre aux élèves de découvrir des œuvres contemporaines, à partir de genres littéraires quoi différents, romans, poésie, bande dessinée, suite à une sélection réalisée par Cyclic, qui est un partenaire important. Donc Cyclic, c'est l'agence régionale du Centre Val-de-Loire pour le livre, l'image et la culture numérique, qui est basée à Château-Renaud. Et voilà, qui joue un rôle important pour la promotion de la littérature, ce qui nous permet de découvrir ces œuvres.
Et de faire découvrir aussi.
Oui, de faire découvrir et puis de travailler avec Benjamin Carotret, qui est notre comédien, on peut dire notre comédien, puisqu'il intervient depuis plus de 4 ans maintenant dans l'établissement pour faire lire les élèves, travailler la lecture à voix haute à partir de ces textes-là. Quoi. Voilà.
D'accord. Et donc, toi, du coup, tu es intervenu un peu toute l'année scolaire, là, depuis novembre, là, jusqu'à aujourd'hui, tu es intervenu auprès des deux classes, de première TCVPJ, Horti, et de première TCVA. Et donc, c'est quoi ton rôle, toi, dans le projet ?
Eh bien, le but était de les faire lire à voix haute. On s'aperçoit qu'il y a des amoureux de la lecture où la grande difficulté était de passer le cap de lire uniquement pour soi. Voilà. Donc, on a essayé de donner des petites techniques de comédien, voilà, c'est-à-dire que ça paraît tout bête, mais la ponctuation, déjà, de bien la respecter, de mettre des balises de respiration, de à quel endroit on respire, à quel moment on ferme le sens d'une phrase, à quel moment on attaque, voilà, de voir comment, comme un musicien, voilà, exactement, on se crée une partition. Voilà, pour avoir moins peur. Et on s'aperçoit, et c'est là où c'était très agréable pour ma part, qu'en faisant ça, eh bien, la lecture devient plus facile, parce que c'est pas si simple, voilà, de parler devant tout le monde. Donc on leur donne des petites astuces. Là, c'était vraiment là-dessus de lecture à voix haute. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de choses, déjà parce qu'on l'utilise pour le théâtre, mais en plus, pour la radio, c'est assez passionnant.
Ouais. Et donc du coup, dans le cadre de ce projet-là, cette année, les classes ont travaillé sur deux œuvres en particulier.
Oui.
En particulier. Oui. Tu peux nous les présenter, toi, rapidement, au moins peut-être l'œuvre poétique sur laquelle tu as travaillé, Arnaud ?
Oui, donc l'œuvre poétique, Moujik de Sophie G. Lucas.
D'accord.
Donc, c'est un recueil de poésie. Donc elle a écrit plein de petites poésies qu'elle a mis... qu'elle a écrit sur des pages.
D'accord.
Donc on a dû les lire et donc voilà, on les a étudiés une bonne partie de l'année.
D'accord. C'est quoi un petit peu la thématique de cet ouvrage Moujik ?
Bah, la thématique, elle est surtout autour donc des sans-abri, des gens donc de dehors, des SDF, voilà.
D'accord.
Donc elle a vraiment structuré donc ses poèmes autour de ça.
D'accord. Alors, toi, est-ce que c'est la première fois que tu lis un recueil de poésie ?
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé, justement, de ces textes-là, là ?
C'était intéressant. Ça a changé des romans qu'on lisait au collège. Donc, c'était intéressant.
Ouais. D'accord. Est-ce que et donc, du coup, la lecture de poésie contemporaine, est-ce que ça a été quelque chose qui a été facile pour toi et puis même pour tes camarades en classe ?
Au début, c'était assez compliqué car on ne comprenait pas trop le but, pourquoi elle avait écrit cela.
D'accord.
Après, quand on a étudié les poèmes avec Benjamin et puis la prof, on a compris que...
Madame Roussange, ouais.
Madame Roussange, on a compris que ça pouvait être intéressant, mais il fallait étudier et bien comprendre.
Oui, des fois, ça prend du temps. Il faut prendre le temps pour arriver à bien comprendre. En sachant qu'en plus, moi qui ai travaillé un petit peu avec vous sur le projet, c'est vrai qu'il y a un style d'écriture qui est particulier aussi au niveau de la poésie. Comment est-ce qu'elle a écrit ces textes, toi ? Il y a certains textes qui sont écrits un peu particulièrement.
Oui, les textes, ils sont plutôt petits. Il n'y a pas forcément de majuscules au début des lignes. Souvent, les mots, ils sont coupés en deux.
Elle revient à la ligne au milieu d'un mot, même.
Voilà, exactement. Donc... Après, on a compris que c'était pour le mot soit important, qu'on percute sur ce mot pour définir plein de sens différents.
D'accord. Et au final, c'est quoi l'expérience que tu en retires, toi, de la lecture de poésie ?
C'est que c'est différent des poésies qu'on a étudiées tout le long de notre enfance. Là, c'est des toutes petites poésies qui peuvent être intéressantes malgré 3-4 lignes.
D'accord. Il y a déjà, oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites en très peu de mots, en fait, c'est ça ?
Voilà, ouais.
D'accord. Bon.
Et sans ponctuation.
Et sans ponctuation.
Et sans ponctuation. Ça, c'était une grande difficulté pour eux aussi.
J'ai même l'impression que c'était pas si simple que ça pour toi, qui es comédien.
Absolument. C'était pas si simple parce que. Mais c'est là où c'est formidable, c'est que, comme il le dit si bien, on est habitué à avoir une poésie dite jolie. Jolie dans différents. Enfin, jolie déjà dans le style d'écriture, jolie dans la manière d'aborder les mots et aussi avec des jolis mots. Or là, l'auteur de Mojik part d'un fait divers. Alors pour faire simple, c'est dans, je crois que c'est une émission télé
un sans-abri en fait.
Oui, mais elle a vu ça à la télé ou dans le journal ou je ne sais plus.
Oui,
c'est un fait divers. C'est tiré d'un, voilà, c'est ça. Et elle a vu qu'il y avait encore des mormes en France, voilà.
Oui.
Et du coup, elle a fait une sorte de reportage poétique. Et de
c'est
là,
ça.
et arrive une écriture hachée, pas jolie, voilà,
ouais.
Pas jolie. Et c'est là où nous, c'était très délicat, ce n'était pas non plus voué à la scène,
oui.
Ni à la lecture.
Ni à la lecture.
Et c'est là-dessus où c'est très, très, très délicat pour mon travail à moi, mais pour leur travail à eux, de comment on peut transmettre ça. Et du coup, au tout départ, par exemple, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y avait plein d'autres questions qui arrivaient. Est-ce que la poésie doit être jolie ? Ça, c'est une vraie question. Voilà. Est-ce que la poésie doit transmettre une émotion vers la beauté ? Est-ce que ça doit tendre vers la beauté ? Et alors, il y en a qui ont dit, mais ça, c'est pas du tout de la poésie, c'est pas beau. Tout de suite, c'était un peu le rejet qu'il y avait. Je sais pas si tu avais eu ce sentiment-là un petit peu au départ ou pas ?
Non, pas spécialement. C'est plutôt de l'incompréhension parce qu'on ne comprenait pas pourquoi faisait ça. Donc, voilà.
Et en fin de compte, elle a écrit de telle manière, c'est-à-dire que ces sans-abri qui étaient complètement désociabilisés n'arrivaient plus à parler. Et en tout cas, ne parlaient plus parce qu'ils n'avaient plus personne à qui parler. Et du coup, elle a essayé d'être au plus proche de leur réalité. Et c'est là où, hop, on peut rechoper, nous, quelque chose en tant qu'interprète. Mais c'était assez délicat quand même.
Alors l'idée c'était de l'auteur, c'était de rendre compte d'une réalité, cette réalité très dure, quoi, des personnes qui se retrouvent démunies de tout, jusqu'à leurs propres paroles qui deviennent quasiment des invisibles. Et donc Sophie Gelluca a voulu redonner une dignité à ces personnes à travers ces écrits-là. Elle le fait de manière très, très objective. En fait, elle s'inspire d'un poète américain, Reznikov, qui avait utilisé ce type d'approche à partir de procès qu'il avait retranscrit de manière poétique. Donc, ça a été une de ses sources d'inspiration. Et donc, elle s'en est servie, quoi, pour parler de cette réalité. Là de personnes qui ont vécu des moments terribles à l'occasion de l'hiver 2008.
Et le grand talent de l'auteur, c'est plus parce qu'elle parle de différentes personnes dont elle donne les prénoms, mais elle peut aussi parler par exemple d'une bâche. C'est la bâche qui parle en l'occurrence. Mais bon, lorsque c'est un être humain qui parle, plus il est socialisé, plus il a de ponctuation. Plus il a une
et il a une majuscule.
Et il a une majuscule.
Or, dans le livre, on découvre des noms, justement, de personnes quoi, sans abri qui n'ont pas de majuscule au même titre que les éléments dont elles parlent.
Que les objets, oui. Ils sont objectifiés, en fait. Voilà.
Oui, c'est
ça. On les transforme en objets au même titre que la bâche, le banc ou...
Oui.
Et là où le cyclique est formidable dans sa sélection, c'est qu'il n'est pas déconnecté de la jeunesse. C'est-à-dire que les personnages dont elle parle, les élèves en ont reconnu, on va dire que c'est des profils, voilà, mais on en reconnaît au quotidien. C'est des marginaux, hein, voilà, mais qu'on peut rencontrer. Souvent, on parlait de la gare, par exemple. Il y a souvent autour de la gare, ce qu'on appelle les mecs à chiens, ou des trucs comme ça, des mecs un peu perdus. Ça, c'était assez intéressant. Et du coup, c'était pas du La Fontaine, avec des choses très lointaines, un peu poussiéreuses, enfin qui pourraient paraître poussiéreuses pour eux. Non, c'était des personnages de tous les jours, je crois. Hein.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Ouais.
D'accord. Nous, on a, il y a pas très longtemps, on a enregistré un petit peu une sélection des extraits de tout ça, en sachant que dans le recueil que les élèves ont travaillé, il y a donc Moujik Moujik qui est un recueil sur cette question-là, donc des sans-abri, notamment autour du bois de Vincennes. Et il y a aussi une deuxième partie du recueil qui s'appelle No Town et qui est consacrée à la déperdition, un petit peu à la déprédation autour de la ville de Détroit aux États-Unis, notamment en lien avec la crise financière de 2008. Voilà, donc on a enregistré ces textes-là. Et ben moi, je vous propose qu'on écoute un petit peu les élèves. Alors, on a sonorisé le tout voilà.
Accompagné de musique,
voilà.
Qui ont elles-mêmes accompagné l'écriture de l'auteur. Donc ça, je crois que c'est bien de l'indiquer aussi.
Georges. C'est vide là-dedans. J'ai perdu le goût des gens. Un jour, j'arrivais plus à ouvrir la bouche. La langue accrochée au palais, j'ai tout quitté pour sous, des quantités de ciel et feuilles. Ici, mon silence s'est défait, je parle tout seul, et qu'à tout ça, même aux pierres, tout autour de ma cabane en bois, aux arbres, ça m'est égal de voir personne que les ombres. Des promeneurs le dimanche sur les chemins, on les voit mieux l'hiver, c'est nu. Des fois, on entend les chevaux courir. C'est vide. Là-dedans, j'ai perdu le goût des gens. Un jour, j'arrivais plus à ouvrir la bouche, la langue accrochée au palais, j'ai tout quitté. Pour sous, des quantités de ciel et feuilleux, ici, mon silence, c'est défait, je parle. Tout seul et qu'à tout ça, même aux pieds, heureux tout autour, de ma cabane en bois, aux arbres, ça m'est égal de... voir personne que les ombres, des promeneurs le dimanche sur les chemins, on les voit mieux l'hiver, c'est nu, des fois on entend les chevaux courir.
Andrew, s'efforcer, on oublie les mots, ça se mélange, les langues, je parle dans le vent, je donne plus de nouvelles, au pays c'est comme si j'étais mort, mes mains ne servent plus à rien, à personne, c'est mort, c'est du petit bois, bon à mettre au feu. S'efforcer, on oublie les mots, ça se mélange, les langues, je parle dans le vent, je donne plus de nouvelles au pays. C'est comme si j'étais mort. Ses mains ne servent plus à rien, à personne. C'est mort. C'est du petit bois bon à mettre au feu.
Partie 1. Marie. Le bois me rentre dedans. J'en fais des rêves à faire froid dans le dos. J'ai les arbres qui me poussent à l'intérieur, les oiseaux, que ça bouge là-dedans, et les feuilles tant que ça me sort par les yeux. Je pourrais tout flamber, que tout partirait en poussière. Je ferai un feu de ma vie et tout le reste. Le bois me rentre dedans. J'en ferai des rêves à faire froid dans le dos. J'ai les arbres qui me poussent à l'intérieur, les oiseaux que ça bouge là-dedans, et les feuilles tant que ça me sort par les yeux. Je pourrais tout flamber, que tout partirait en poussière. Je ferai un feu de ma vie et tout le reste.
Partie 1, dans les bois, chêne. Je vois les hommes penchés autour de moi, mais sans plier tout à fait, ils tiennent contre moi leur tête, bras, dos, mains, des fois coups de pied, tonnes, comme ça s'effondre un homme dans le bois. Ça ne fait pas de bruit dans les feuilles, face, contre, mes branches ne les touchent pas. Je vois les hommes penchés autour de moi, mais sans plier tout à fait, ils tiennent tout contre moi leur tête, bras, dos, mains, des fois coups de pied, tonnes, comme ça s'effondre un homme dans le bois. Ça ne fait pas de bruit dans les feuilles, face, contre, mes branches ne les touchent pas.
He's gonna run through the fields, dreaming an animation. It's all gonna split a skull. It's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot my blood like Mohammed Boxer. Take him up, 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 up.
Dans le bois, terre. J'ai la peau dure, je porte un bois et des hommes. Et le poids du dedans de ces hommes se couche sur moi, des fois. Se roulent dans mes feuilles, d'autres se soulèvent, pour jamais revenir. Font balancer leur corps au bout des branches, je les regarde tourner, tourner, au-dessus des mois. Mais je ne les enterre pas. J'ai la peau dure, je porte un bois et des hommes, et le poids du de ces hommes se couche sur moi, des fois, se roule dans mes feuilles, d'autres se soulèvent pour jamais revenir, font balancer leur corps au bout des branches, je les regarde tourner au-dessus de moi, mais je ne les enterre pas.
Je voudrais être demain, je voudrais toujours être demain. Et puis hier, avant-hier, le jour où j'ai appris à pêcher, avec mon père. Je voudrais être l'année dernière ou l'année prochaine. Le soir où j'ai serré cette fille dans mes bras, assis dans l'herbe près du pont. Je voudrais être un autre jour, celui où j'ai plongé pour la première fois dans la rivière sous les hurrahs de mon frère. Je ne veux jamais être aujourd'hui ce moment. Je sors fumer une cigarette économisée depuis des heures. Debout dans un carré de soleil, mes pieds dansent pour se réchauffer. Je regarde les arbres avec inquiétude.
Je fabrique des chevaux avec les nuages. J'organise des courses, je mise, je les pousse de mon banc et c'est toujours moi qui gagne. J'écoute des chansons populaires dans mon transistor à pile, des chansons qui passaient quand j'avais 15 ans. J'ai eu 15 ans un jour.
Les gens sont chez eux, ils sont en colère, mais ils sont chez eux. Nous ne savons pas ce qui va se passer quand ils sortiront. À quel moment tout ça nous a échappé ? Ça lui vient comme ça lui revient, les paroles. Il se met à chanter à tue-tête, l'hymne de son pays. Enfermé dans son pick-up, passant les friches, seuls les arbres debout. Les choses vont tellement mal qu'il ne sort jamais dans son quartier sans une arme. Aujourd'hui, il a un Magnum 357 à la hanche. Il y a des zones vides partout, des trous dans la ville. L'impuissance de ces hommes, les épaules disent ça, regardant les bulldozers avaler les maisons. La télévision allumée, muette, les traces des pinceaux sur la porte, peinture rose pâle, et le canapé silencieux. Tout ce qui s'en va de lui, il remarque. Partir pour aller où ? Il n'y a nulle part où aller.
Au beau milieu du quartier abandonné, immeubles, maisons, parking, ciel vide. Une maison, des jouets dans le jardin, une voiture garée devant. Et sur la porte au marqueur noir, quelqu'un vit ici. Il n'avait pas aidé de passer là. Il prend toujours soin de l'éviter. Il pensait qu'il était devenu un animal. Une barque éventrée sur le trottoir. Des bateaux coulés dans les jardins. Des planches de bois, clouées, sur des portes, portes, portes. Et des fenêtres, fenêtres, fenêtres. Comme si on fermait les yeux d'un mort, des carcasses de voitures brûlées, et ce feu bloqué au rouge, il passe devant sa maison, ce qui n'est plus sa maison. Il ferme les yeux. Et ça devient un jeu de rouler les yeux clos. Combien de temps jusqu'à heurter quoi ? Ce tas d'ordures, un chien errant, cette fille de voiture abandonnée. Pour ne rien voir de cette foutue vie, il voudrait que ce soit tout le temps comme ça. Et sur la porte d'une maison, un écriteau à la main de travers qui dit « Il n'y a plus de cuivre à piller dans cette maison. »
La longue file des gens, devant le bureau de l'emploi. Nous avons été liquidés. Ma maison vaut $50 maintenant. Vous pouvez même vous offrir un quartier pour $5,000. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans notre pays.
Un suicide et eux tout autour. Les toits brûlés,
des trous,
et le ciel dans les maisons. Sur la vitrine d'un magasin abandonné en lettres rouges néons.
Oui, c'est ouvert.
On attend les prochains coups, mais ça ne pourra pas être pire. Croyez-moi, l'enfer, c'est maintenant. Les corps se soulèvent de regarder les chevaux courir. Et sous leurs cris, les chevaux qu'ils ont libérés, les poussant vers l'entrée de la ville, devenue prairie, ils les regardent longtemps.
Ça les soulève un peu,
essoufflés d'avoir crié.
Ils galopent.
Et quand les chevaux sont loin, le feu qu'ils mettent à l'enclos, aux écuries, à la grange, et tout ce qui peut faire feu. Thank you.
one shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up.
Et voilà, du coup, c'était donc Mujik Mujik et No Town, mis en son par mes soins et avec les voix donc des élèves de la première TCVPJ Horti.
Juste voilà. Rebondir là-dessus, on a bien pu voir la différence lorsqu'ils découpent le texte comme l'auteur l'a souhaité ou lorsqu'on essaye d'en faire une phrase. Ouais, ils avaient fait deux lectures.
Deux lectures, voilà. Ouais.
C'est pour que les auditeurs comprennent bien.
Voilà.
c'est pas des mauvais lecteurs, c'est un respect de l'auteur.
Peut-être. Voilà. Ok. Et donc, du coup, avec Mujik Mujik, il y avait aussi un roman. Alors, tu peux nous dire quelques mots sur le roman de toi, Elisabeth ?
Oui, alors le roman, c'est un roman d'une jeune auteure qui a grandi en Bulgarie, qui vit en France depuis ses 20 ans. Et ce roman-là, en fait, c'est son premier roman. Il s'intitule donc « Les cosmonautes ne font que passer ». C'est un titre qui peut sembler assez énigmatique parce que, en fait, elle fait référence à une première rencontre importante d'une petite fille qui est, elle, en vérité, petite quand elle était encore en Bulgarie. À savoir Yuri Gagarine, en fait, qui fascine vraiment cette petite fille qui a pour projet, en fait, de devenir un jour Yuri Gagarine. Donc, c'est-à-dire d'être comme Yuri Gagarine, la cosmonaute, hein, on peut dire du coup la cosmonaute pour cette petite fille qui irait dans l'espace. Voilà, bon, Yuri Gagarine, c'était le héros national
pour toute l'Union soviétique,
ça,
d'ailleurs.
Pour tout le bloc communiste, ouais, on peut dire, avant la chute du mur de Berlin en 1989. Et donc, c'était le héros national, puisque c'était le premier homme, quand même, à avoir volé être allé dans l'espace au cours de la mission Vostok 1. Voilà. Et donc, ce personnage-là est important, quoi, dans le roman, autant que celui de la petite fille, qui raconte, par l'intermédiaire de ce héros national, la vie, quoi, du communisme, sa chute, et puis l'après-communisme aussi, puisque à travers ce roman autobiographique, on va de l'enfance, quoi, de cette petite fille jusqu'à sa période adolescente. Voilà.
Avec sa découverte de l'école, les amis, oui. La vie quotidienne un peu.
Oui, oui, la découverte de l'école. Le début du roman commence par un chapitre. Alors tous les chapitres, quoi, tous les titres de chapitres utilisés par l'auteur ont une dimension humoristique. Il s'appelle La conquête spéciale. Et pas spatial, mais bon, la collusion est volontaire. Ce premier chapitre raconte justement suppose que c'est sa première journée d'école avec le côté angoissant, mais qui est compensé justement par cette rencontre qui va se faire avec Yuri Gagarine à travers en fait une mosaïque en fait qu'elle découvre de ce héros national. À proximité de l'école où elle se rend.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, à part la thématique qui est autobiographique et qui permet de comprendre un petit peu comment un enfant... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment le regard des enfants sur la politique, un petit peu comment ils vont réinterpréter les choses, comment ils vont se les approprier, ouais. Et un petit peu comment aussi ils transforment un petit peu le monde qui se trouve autour d'eux pour se l'approprier. par ce regard. Et elle utilise... Arnaud, c'est peut-être quelque chose que je voulais te poser la question. Toi, tu as lu des extraits de ce roman. Qu'est-ce que tu as pensé, tu vois, de la façon d'écrire, du style de l'auteur?
Bah, comme vous l'avez dit, oui, elle veut vraiment... comment dire, elle raconte sa vie et non la vie des autres, elle parle directement d'elle et de ses... comment dire, de ce qu'elle pense. Donc oui, c'est...
C'est mais c'était pas qu'un récit, quoi.
Elle
donne ses pensées aussi. Ça,
oui.
Ça, c'est intéressant.
Ah oui, oui, quand...
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle raconte pas à la première personne. Je sais pas si tu vois, en fait. Oui. Et ça, c'est qui est un peu déroutant même, c'est qu'elle parle à la deuxième personne du singulier. Elle se dit tu, en fait. Elle se parle à elle-même.
Oui, oui, c'est le syndrome d'Alain Delon, je crois.
Quand j'ai commencé à lire le livre, je pensais qu'elle parlait d'une autre personne ou de quelque chose comme ça. Après, j'ai appris qu'elle parlait d'elle-même, mais elle n'employait pas la première
personne. Elle se disait tu. Ce qui est peut-être presque même un peu. Comme ça, on peut considérer que c'est un peu de la mégalomanie ou même de la dissociation de personnalité, presque. C'est-à-dire qu'elle parle à une autre personne qu'elle-même, mais qui est elle-même.
Ouais, c'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'elle est venue en classe, l'auteur, c'est bien ça. Hein.
C'est Moujik Moujik.
Ah, pardon, je me suis trompé.
C'est l'auteur de Moujik Moujik.
Pardon, c'est l'auteur de Moujik Moujik. Mais c'est vrai qu'il faudrait lui poser la question, ouais. Véritablement, pourquoi elle a fait ça et pourquoi elle n'a pas utilisé la première personne du singulier. Peut-être que ça permet aussi de rentrer dans la fiction et peut-être d'aller plus loin, de tendre un petit peu. Pardon. Vas-y, Elisabeth.
Oui, c'est une façon de mettre de la distance aussi. Oui, et finalement, le tu, ça devient presque un on, quoi, au fil du livre. Donc, oui, c'est comme si elle se parlait à elle-même, mais c'est la manière dont, le fait de se parler à elle-même, c'est comme si elle s'adressait à toutes les petites filles de sa génération. Mm-hmm. Oui.
D'accord. Donc, encore une fois, on a fait ce travail-là avec la classe de TCVA. Donc, ils sont nombreux. C'est une classe qui sont plus de 30. On a enregistré tous les élèves qui ont lu un extrait de ce livre.
Ouais.
Donc, ça nous fait au final une lecture radiophonique qui dure quasiment 30 minutes. Donc là, malheureusement, on n'a pas tout à fait le temps de l'entendre maintenant. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on la diffuse à la fin de l'émission.
Peut-être que rappeler pour les auditeurs le titre et l'édition, c'est vrai qu'on parle d'œuvres pour les retrouver, parce que peut-être qu'ils auraient envie
donc,
de
voir. Comme je le disais, les cosmonautes ne font que passer. C'est vrai que j'ai pas
t'as indiqué, pas donné le nom de l'auteur d'ailleurs.
T'as pas donné le nom de l'auteur, je crois.
Ah, si. Elitsa Gheorgheva. Pardon, Elitsa Gheorgheva, je suis désolée pour l'auteur, pardon.
Elitsa Gheorgheva, et donc le nom du roman, c'est Les cosmonautes ne font que passer.
Aux éditions Verticales, et donc c'est un roman tout à fait récent, 2016. Voilà.
Voilà. Et pour le recueil poésie.
Et l'autre, donc Sophie Geluca, Moujik Moujik, qui est une réédition en vérité de Moujik Moujik augmentée de No Town, et qu'on trouve aux éditions de La Contre-Allée, qui est une édition où l'auteur a publié d'autres œuvres, et qui est de 2017.
Il faut saluer, je crois, quand même le travail de Cyclique qui fait un repérage
complètement,
exemplaire.
C'est
et puis après, celui d'Elisabeth qui choisit pour ses élèves parmi ces propositions-là.
Ah oui, donc, mais mon choix, il se fait vraiment grâce à Cyclique. Vraiment. Je la remercie beaucoup de toute cette pré-sélection. Parce qu'à chaque fois, ça fonctionne quoi, avec les élèves.
C'est pas simple, en fin de compte, de travailler sur la poésie ou sur les romans. Il y a vraiment un grand nombre d'auteurs, et tant mieux. On a la chance en France d'avoir des auteurs talentueux. Mais encore une fois, on a une cible, si on peut parler crûment, d'élèves. Voilà, et il faut que ça leur parle. En tout cas, on veut que ça leur parle. On essaye de leur faire aimer soit l'histoire, soit la littérature, soit l'amour de la poésie. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours des choses différentes. Et bravo à Cyclic pour ça, je trouve.
D'accord, eh bien, j'en profite c'est pour vous remercier tous les deux, puisque déjà toi, Elisabeth, sans toi, on ne serait pas vraiment là, nous, la Radio Studio ZEF. Donc déjà, merci de faire appel à nos services, et ça nous permet de donner la parole aussi à des lycéens. Et ça, c'est important.
Oui.
Et puis merci à toi, Benjamin, d'être venu aujourd'hui et puis de participer à ce projet, puisque du coup, sans toi, je pense que les lectures auraient beaucoup moins de panache. Et puis, tu donnes confiance. Ce qui est intéressant, c'est que tu donnes confiance aux élèves dans la prise de parole, et je pense que ça leur sert aussi en dehors de ça.
Ah bah merci. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec eux, parce qu'au fur et à mesure, ils s'en aperçoivent pas toujours, mais ils commencent à baisser les armes et on voit ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire énormément de talent. Et c'est vrai que je pense qu'on leur dit pas assez qu'ils ont pour beaucoup d'ailleurs des talents de lecteurs, et c'est des amoureux des histoires en réalité, et une fois qu'ils plongent dedans, alors forcément hein, c'est toujours assez complexe quand on est 30, voilà comment on peut s'en sortir, mais on a réussi à faire des petits groupes de 10, de 15, et cette année c'était quand même bien plus agréable, donc voilà.